Et maintenant, un bon boîte casse.
Et maintenant, un bon boîte casse.
Bien, et bien, bonjour à toutes et tous, et bonjour Mathieu Despenou, puisque je suis ravi de t'avoir au micro cette fois-ci, puisqu'on n'est pas réussi à se croiser au salon de Essen. Bonjour Mathieu.
Oui, bonjour, ça va?
Ça va très très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette année 2008, et en tout cas de Essen? Quelle est ta conclusion à l'heure actuelle pour parler un peu de ton expérience de Essen 2008?
Alors, pour le salon d'Essen, je dirais que les jeux qui ont fonctionné sont ceux auxquels on ne s'attendait pas.
Oui.
Et on a vraiment cartonné sur Hitman Bullet. Mm-hmm. Je pensais que les Allemands étaient des gens sérieux, et on avait prévu un petit stock de jeux. Et on a été sold out assez rapidement, en fait. Donc ça, c'est une grande satisfaction de voir que les joueurs allemands arrivent à se dérider avec des jeux simples et sympathiques.
Oui.
Voilà, bon accueil de Kaleidos, bon accueil de Robo Master. C'est sûr que ça aide d'avoir un jeu avec une signature connue.
Mm-hmm. On parle de Rainer Knizia à ce moment-là.
Voilà, et puis pas de mauvais accueil de la soupe à Gertrude. Donc c'est plutôt positif. Je trouve que la manifestation est toujours très geek.
Oui.
Donc je m'en amuse et je m'en fais une raison.
Oui, c'est voilà. Ça. Parce que finalement, Cocktail Games s'adresse à un public qui est beaucoup plus large que le public qui aura tendance à livrer du gros jeu qui dure 4 heures.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les gens qui vont à Essen sont quand même très très attirés par tout ce qui est goodies, etc. Et nous, on n'est pas du tout dans cette logique. Mais ça ne nous empêche pas de bien fonctionner. Et ce qui est intéressant à Essen, c'est les contacts qu'on peut avoir, notamment à l'export, pour certains jeux de notre gamme, en fait. Par exemple, Vitrail aux États-Unis, c'est une retombée d'Essen il y a 2 ans. Notre distribution en Allemagne sur 4 jeux, c'est également une retombée d'Essen.
C'est plus grâce à Essen que grâce à Nuremberg.
Alors Nuremberg, jusqu'à présent, on était présent. Enfin, on était présent uniquement en simple visiteur. Là, cette année, on prend un stand. Donc, on a un stand qui est très bien placé parce qu'on pense qu'on a des possibilités d'exporter, notamment dans l'Europe du Nord, je pense aux pays scandinaves. Voilà, que la gamme jeux de poche se prête bien à une acquisition groupée. C'est-à-dire, si quelqu'un veut avoir une jolie petite gamme en démarrant par 4 ou 5 jeux qui ont une même ligne éditoriale, qui sont correctement développés, je pense qu'on n'est pas plus bête que les autres et qu'on doit pouvoir arriver en fait à placer quelques jeux à l'export. On est déjà au Portugal, en Allemagne, en Espagne, mais je pense qu'il y a d'autres possibilités d'ouverture. Enfin, j'en suis même convaincu. Oui. On y va pour ça.
D'accord. Mais donc, on peut dire que c'est vraiment une explosion du côté de Cocktail Games aussi. Si on veut l'année 2008 sur Essen, il me semble que dans l'environnement des éditeurs francophones, il y a eu beaucoup de sold out.
Ah oui, je pense. Je pense qu'il y a des gens qui préparent Essen plus que nous, qui développent aussi leur jeu certainement de manière beaucoup plus professionnelle. Oui, j'ai vraiment l'impression que ça a bien fonctionné. Hein. Mes amis de Repo Productions ont fait un véritable carton avec Ghost Stories et je trouve ça amplement mérité, même si c'est pas du tout mon type de jeu. Je reconnais l'effort éditorial et les bons résultats commerciaux qui s'en suivent.
Oui, tout à fait. Mais justement, pour parler de ligne éditoriale, on connaît Cocktail Games à travers les fameuses boîtes métal qui se glissent facilement dans un sac à dos, dans une boîte à gants. Ça, c'est vraiment la ligne éditoriale de Cocktail Games.
La ligne éditoriale, elle est très simple. C'est 1 minute de règle, 15 minutes de jeu. Donc, on a des jeux très... très variés, mais qui quasiment tous répondent à ce postulat. Voilà, nous, on veut des jeux simples, malins, pas chers, assimilables immédiatement, avec une jolie petite idée à l'intérieur. Voilà, on ne veut pas décevoir nos clients, parce que je pense que maintenant, on a quand même, je dirais, quelques personnes, en fait, qui sont assez attachées à notre gamme. Et si on faisait demain une révolution de chapelle en sortant un jeu très, très compliqué, je crois qu'on se tromperait. Voilà, et en plus c'est ce genre de jeu auquel je joue, donc il n'est pas question d'aller faire du gros jeu en fait, hein. c'est pas d'actualité.
Tout à fait. Mais alors revenons justement à la genèse de Cocktail Games. Quand on va sur le site internet, donc cocktailgames.com, on arrive sur une page qui nous permet déjà de choisir entre 2 univers. On voit Interlude et Cocktail Games. Comment c'est quoi cette ambivalence, on va dire?
C'est assez simple en fait. Moi j'ai créé, d'abord il y a qu'une société qui s'appelle Interlude. Cocktail Games, c'est la marque d'édition d'Interlude. Interlude, j'étais en fait préalablement salarié dans un groupe hôtelier. je pratiquais des jeux de murder party à titre privé. Et j'ai eu un jour l'occasion de vendre une murder party à une entreprise. Alors, j'étais toujours salarié, donc j'ai créé une association en 1901. J'avais fichtrement aucune idée qu'on pouvait vendre ça en fait à des boîtes, puis ça s'est fait un peu accidentellement. Et puis, je me suis retrouvé en difficulté professionnelle, comme ça arrive. Et ça, cette bonne première expérience, c'était pour Yves Saint-Laurent, en fait. Hein. On avait fait une murder party à l'hôtel Normandie, à Deauville, pour 80 personnes. Ça s'est très bien passé. Je me suis dit, bah, c'est le moment de faire quelque chose. Donc, je suis parti de mon entreprise. Plus exactement, j'ai été licencié économique, j'ai mis ma mère comme gérante, ce qui est un moyen en fait de conserver une rémunération. Maintenant, les choses ont changé en fait, et on peut faire ça de manière plus simple et plus légale, on va dire ça comme ça. Voilà, en 97, j'ai démarré. Alors le concept, c'était d'amener le jeu dans l'entreprise. Donc sur le papier, c'était une belle idée. Dans les faits, ça s'est avéré en fait plus compliqué prévu, parce que bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des jeux en bois un peu à droite à gauche, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, et j'ai essayé de constituer une offre qui pouvait répondre à des besoins de communication interne et externe, c'est-à-dire se dire voilà, ben, on va faire en fait des produits de challenge pour des forces de vente, on va avoir des formules de jeux en accès libre pour des soirées annuelles ou des lancements de produits. Donc la première année a été une année très difficile, j'ai été classé risque 5 par la Banque de France, qui est vraiment pas terrible. Et en fin de première année, je me suis dit, bah, si je continue comme ça, je vais dans le mur. Donc j'ai embauché en fait mon premier salarié. Je me suis dit qu'à deux, on ne ferait pas 1 plus 1 égale 2, mais 1 plus 1 égale 10. Et tout le travail qui avait été fait en première année, tout ce qu'on avait semé, bah finalement, en deuxième année, on a littéralement explosé. C'est-à-dire, on est passé de 8 manifestations par an à une centaine. Voilà, et en année 2, en année 3 et 4, on est monté jusqu'à 140, 150 manifestations. Voilà, avec une offre organisée autour de jeux d'adresse en bois, un truc qui s'appelle le Ludo Tour, le Ludo Trophy, etc. Donc c'est un marché qui a été vraiment en très forte croissance, et je ne faisais pas autre chose, hein, j'avais pas du tout l'idée de me lancer dans l'édition de jeux, c'était pas le propos en fait. Et puis comme j'organisais des challenges, j'achetais en fait des jeux, j'essayais d'acheter des trucs originaux, mais il y avait rien qui me plaisait. Donc en 2001 en fait, je me suis dit, enfin plus exactement en 2000, je me suis dit bah ça serait bien d'éditer un jeu qui pourrait en fait être utilisé comme lot pour les challenges qu'on organisait, puisqu'à l'époque on en organisait une centaine. Aujourd'hui, on fait 80 manifestations par an, hein, le marché a un peu ralenti, et puis nos propres priorités ont un tout petit peu changé. Et donc voilà, avec mes amis Odile Homer et Roberto Fraga, on avait Contrario dans le tiroir, entre guillemets, et on a développé ce jeu, j'ai imprimé 5000 exemplaires, et j'avais calculé qu'en 3 ans, bon an, mal an, en fait, j'arriverais à fourguer mon stock en fait, dans le cadre de challenge pour des boîtes. Et puis on a eu une possibilité en fait Descartes a fait un essai en fait sur Contrario, Descartes rue des écoles, ça a bien fonctionné. Ça c'était quelque chose qui avait été initié par Roberto, qui à l'époque en fait avait fait les dragons du Mekong chez eux. Et puis du jour au lendemain en fait on s'est retrouvé distribué dans la France entière. Voilà, on a eu le Grand Prix du Jouet, et puis ça nous a donné envie d'en faire d'autres en fait. Hein, et on s'est aperçu que ce produit, bah, finalement, pouvait être distribué dans un réseau classique de boutiques spécialisées.
Oui, d'accord. Et cette fameuse histoire de Contrario, c'est donc une collaboration, en fait. C'est une création entre différents...
C'est une création tripartite, en fait. Ouais. C'est-à-dire, avec Odé Roberto, on faisait partie d'une association à l'époque qui s'appelait la Maison des auteurs de jeux. Et moi, à l'époque, je faisais des jeux. Depuis, j'en ai dit, je trouve ça beaucoup plus amusant. Et puis, je pense que j'ai fait un bon jeu et que ça s'arrête là. Il faut savoir reconnaître le talent des autres. Donc, je suis pas un auteur de jeu, je suis l'auteur d'un jeu, en fait. Hein, en plus qu'auteur. Mais ça me va très bien. Contrario, c'est avec Odé et Roberto, on se réunissait assez régulièrement à Saint-Malo, puisque Roberto habite à Saint-Malo, pour essayer de faire des jeux ensemble. Alors c'était plutôt sympathique, parce que Roberto, c'était un peu les jeux un peu tout fou, Odé était assez axé jeux stratégie, et moi j'étais plutôt jeux de communication et jeux d'expression. Et puis voilà, on a eu l'idée de Contrario, on s'est amusé à le développer. Alors ce qui était bien sur le Contrario 1, c'est que on n'avait aucune, si tu veux, on n'avait aucune pression de temps, donc on a pris le temps de sortir un bon jeu. Voilà, après je me suis dit, bah, ce qui pourrait être sympa, c'est de le mettre dans une boîte en métal. Je crois que c'est peut-être la seule bonne idée que j'ai eue pour cette entreprise, c'était ça. Donc voilà, on a trouvé un fabricant, on a appris comment on fabriquait des cartes. Et puis on a eu pas mal de chance. Je crois que c'était bien de démarrer par Contrario et pas forcément par Illico Presto. Illico Presto, je pense qu'on aurait arrêté. Alors que Contrario nous a permis de continuer. Et alors, la grande satisfaction, c'est qu'on vient de signer pour Contrario avec un éditeur de livres. Et que Contrario sort au mois de juin 2009, en fait, sous forme de bouquin. Il y a un gros tirage à 20 000 exemplaires, avec des petits bouquins qui seront vendus 2,90 €, et dans lequel il y aura 160 Contrario, c'est-à-dire un par page, en fait. Donc ça, c'est très rigolo de voir qu'un jeu devient livre. Généralement, c'est le chemin inverse. Alors, Contrario est édité, alors donc est vendu en Europe francophone. Donc, Contrario, ça fonctionne en Belgique, ça marche en Suisse, au Québec, sachant que le référentiel de Contrario, on a quand même sur 1600, on doit avoir deux ou 300 trucs issus de la télévision, c'est un peu compliqué au Québec. Et il y a une licence, en fait, avec Fox Mind Games, donc il y a une version anglaise de Contrario qui existe et qui marche exactement de la même façon. Letter in a glass pour message in a bottle, en fait, hein, c'est le même concept. Voilà. Mais c'est un jeu difficile à exporter, hein, Contrario, faut pas se leurrer. Hein. C'est un jeu franco-français. Voilà. Et la structure du langage, par exemple, la structure allemande du langage se prête pas du tout à ce genre de jeu, en fait.
D'accord. Et donc, de Interlude est venu Cocktail Games, l'édition de jeu. Et puis, ouais. On a vu apparaître aussi des Interludes Café.
Alors, c'est exact, en fait. Donc, on a. J'étais associé à l'époque avec un de mes amis, Jacques Barthélémy, avec qui on a eu la possibilité de reprendre en fait un café à Toulouse. Voilà, et on s'était dit, bah, plutôt que de faire le métier de cafetier seul, nous intéressait pas. Et donc on a décidé, voilà, de créer quelque chose où on pourrait en fait jouer à nos jeux au départ et éventuellement à d'autres en fait après. Voilà, donc c'est le concept Interlude Café, c'est ça. Donc Toulouse a été revendu, pas parce que ça marchait pas, mais parce qu'on a eu une opportunité. Et mon associé, qui est beaucoup plus pragmatique que moi, m'a dit, ben, quand on fait une affaire comme ça, on n'a pas le droit en fait de faire de l'affectif, et de mon ton de bon sens, je me suis incliné. En
fait. Voilà. Ben oui. Et celui de Paris alors ?
Eh ben celui de Paris, ça fonctionne pas mal. Donc on a à la fois bon une clientèle de quartier et on commence depuis 6 mois à sortir du réseau joueur, ce qui est bien, c'est-à-dire on a un peu de on a des étudiants, des mères de famille avec enfants, etc. Donc c'est quelque chose qui prend du temps. Voilà, je suis assez optimiste sur la chose.
Ok. À l'heure actuelle, par rapport aux jeux de société, ton sentiment, c'est qu'on est quand même toujours à deux vitesses. Il y a un côté, il faut beaucoup batailler encore pour montrer que le jeu est toujours ou est redevenu quelque chose d'intéressant.
Oui, mais enfin, à la fois de plus en plus et de moins en moins.
Oui.
C'est-à-dire, je pense que Internet a quand même éveillé la curiosité des gens. Et aujourd'hui, ils vont aller chercher en fait un peu au-delà de l'hypermarché. Donc, il y a beaucoup de manifestations de jeux partout, en France, en Belgique, etc. Donc, il y a plus de presse. Donc, je suis assez optimiste en fait, hein, sur l'évolution du marché. Je veux dire, les gens vont au-delà de la boîte de Monopoly en fait. Hein, et je le vois bien nous, parce qu'on fait, je fais beaucoup de manifestations, etc. Je trouve cette curiosité très saine en fait. Et quand on fait des jeux pas très chers en fait, parce que le souci aujourd'hui, c'est qu'il y a une sollicitation sur les loisirs en fait qui est absolument énorme, beaucoup plus qu'avant. Internet, scooter, cigarettes, etc. Et que le budget des gens n'est pas extensible à l'infini. Et donc voilà, ils font des choix. Donc les gens zappent en fait, hein, c'est-à-dire ils zappent d'un loisir à un autre. Donc il faut faire des petits prix et des choses qui se captent immédiatement. Ouais. C'est mon sentiment en tout cas.
Ouais. Je veux dire, il y a un paradoxe qui s'installe de temps en temps en se disant, bah oui, les gens quittent un peu le supermarché pour aller voir dans les magasins spécialisés et aller à la rencontre de jeux à petite édition, on va dire. Mais ouais. Un éditeur comme toi est en train de grandir finalement. C'est intéressant quand même d'aller jusque dans les supermarchés.
Oui, certainement, mais après, voilà, moi mon objectif, c'est pas la course au chiffre d'affaires, c'est voilà, de faire ce que j'ai envie de faire. On peut vivre décemment et correctement en ayant une distribution uniquement en boutique spécialisée. Et j'ai fait l'expérience de la grande distribution avec Contrario, puisqu'on avait sorti une version en fait pour Carrefour. Voilà, et la grande distribution, si on communique pas en fait de manière importante sur des grands médias traditionnels, voilà, presse, affichage, télé, etc. Bah c'est très compliqué en fait. Hein, et puis j'aime bien la vente de qualité, la vente. Voilà, c'est les boutiques spécialisées, c'est les bons libraires de quartier, c'est les gens qui ouvrent les boîtes, les expliquent, etc. Et ça nous va bien, et on peut vivre honnêtement comme ça en fait, sans faire la course.
C'est ça. Mais donc ça veut dire que l'explosion ou le fait de enfin, l'explosion du jeu de société à l'heure actuelle permet justement d'éviter d'aller vers le supermarché et de conserver ce côté épicerie du quartier.
Je pense parce que sur les jeux de société, je ne sais pas si on peut dire ça parallèle, voilà, pour les faire connaître, il y a besoin de conseils et le conseil, on l'a dans une boutique par un vendeur qui aime bien son métier, qui aime bien les jeux qu'il montre, etc. Et je trouve que c'est assez assez fondamental en fait.
Ouais.
Voilà, ça nous va bien.
Ouais, tout à fait. Pour revenir sur le côté interlude, c'est les animations en entreprise, c'est toujours quelque chose qui t'occupe ou il y
Oui,
a...
bien sûr. En fait, à l'époque forte, on faisait 120 à 140 manifestations par an. Aujourd'hui, on en fait 80. Alors, on a trois types de clients. On a les agences événementielles. Donc, c'est des organisateurs d'événements. Donc, dans le cas d'une soirée pour un grand groupe, par exemple, on sera un des maillons de la chaîne, au même titre que la sonorisation, le spectacle, etc. On a également en fait des clients directs, donc on travaille. Je crois qu'on a dû travailler pour quasiment tout le CAC 40, c'est-à-dire dans l'automobile, l'informatique, etc. Je crois qu'on a dû faire à peu près 1000 enfin peut-être pas 1000, mais enfin 700 ou 800 manifestations depuis qu'on existe. Voilà, et donc on travaille soit pour si c'est une PME pour la boîte dans sa totalité, soit si c'est un grand groupe pour un service donné. Et notre troisième type de client, et ça c'est assez intéressant, on travaille avec ce qu'on appelle des lieux réceptifs. C'est-à-dire, ça peut être soit des hôtels avec des hôtels de séminaires, soit des centres de congrès, des choses comme ça. Et donc voilà, alors ce qui est intéressant, c'est de trouver des relais de commercialisation. Par exemple, les lieux réceptifs, je travaille avec un château qui est un château du XIIIe siècle, qui s'appelle le château de Vielmaeux, qui se trouve dans les Yvelines, à 40 km de Paris. Voilà, et je leur développe une offre spécifique, c'est-à-dire j'ai un produit là-bas d'extérieur, d'animation extérieure qui s'appelle Les Aventuriers du Château, qui va s'appeler à un autre endroit Le Repaire des Corsaires et un troisième Les Mac Games. Voilà, donc de temps en temps c'est une question d'enrobage. Voilà.
D'accord. Quand tu arrives sur un événement comme ça, justement quand tu parlais du CAC 40, donc je dirais c'est quand même des gens qui ont un peu la tête dans le guidon dans leur entreprise. Comment ils réagissent par rapport au fait de se retrouver face à des jeux?
Alors, il faut voir en fait qu'on arrive, je pourrais dire, dans un contexte légèrement défavorable. C'est-à-dire, en gros, c'est des trucs qui se passent le soir. C'est quelque chose qui est décidé par une personne et imposé à 80, en fait. Donc, nous, notre boulot, c'est de changer l'état d'esprit des gens, alors avec des grands jeux d'adresse en bois, avec une animation intelligente, pas des trucs qui sont posés sur les tables comme ça. On y arrive et on est une parenthèse dans la vie de l'entreprise. Hein. C'est-à-dire, on va rien changer, en fait. On en est très conscient. Mais par contre, pendant 2 heures, les choses vont bien se passer, en fait, hein, vont bien se passer. Si on propose un produit challenge, il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va être un peu fédérateur, etc. C'est pas très compliqué. On est servi par bons produits. On essaye de faire des animations intelligentes. On essaye de faire des animations, en fait, que les autres ne font pas. Donc, ce qui est très intéressant aussi pour nous, c'est de faire des animations liées à nos produits d'émission. Par exemple, la soirée Contrario, si je peux en parler une minute. Donc, ça c'est formidable parce qu'on est. Donc c'est pour des groupes de 50 à 100, enfin 50 à 150 personnes. C'est un challenge intertable qui se passe pendant le dîner, le déjeuner en fait. Donc les tables ont des numéros et c'est un challenge progressif où les gens vont jouer tous ensemble, puis table par table, puis créer leur contrario. Donc ça c'était très bien pour la deuxième édition. C'est-à-dire que on en fait 20 par an, j'ai eu des dizaines de propositions de contrario pour la deuxième édition, et puis voilà, il y a un challenge final, les gens repartent tous avec une boîte de jeu, parce que c'est assez facile pour moi, puisque comme je suis l'éditeur, en fait. Et ça, c'est super bien. On fait de la prestation de service, on est payé pour ça, on pré-commercialise nos jeux, on augmente notre notoriété, en fait. J'estime que... Bon, je pense que je suis le seul à faire ça, mais là, j'estime que la boucle est bouclée.
Oui,
pour
c'est ça.
Pour l'ego, c'est pas mauvais aussi, en fait. J'adore ça.
Oui, il y a un cycle vertueux qui est assez bien installé. C'est-à-dire que
ouais, voilà.
Tu édites, tu amènes, tu animes, et les autres le montrent autour d'eux, et c'est parti, quoi. Effectivement. En termes d'animation, on a vu pendant l'année 2007 quelque chose d'assez exotique, c'est-à-dire des animations de jeux dans un TGV. Tu peux nous en parler ?
Oui, bien sûr. Donc, nous, petits éditeurs, notre objectif, en fait, c'est que d'augmenter la visibilité de notre gamme de jeux. Donc, on a eu l'opportunité d'entrer en contact avec les gens d'IDTGV suite à l'opération que le Festival de Cannes avait montée, en fait, qui était le train des jeux l'année dernière. Donc, ils nous avaient repérés, ils avaient bien aimé, en fait, ce qu'on faisait. Et donc voilà, on a signé deux opérations avec eux, une sur IDTGV, sur deux lignes, donc c'était Paris-Marseille pendant une semaine et Paris-Perpignan pendant une semaine. Donc c'est des trains qui partent à 8h du matin, qui arrivent à 14h, et donc on fait jouer les gens. Donc ça, c'est ce que j'appelle de l'animation dans le dur, quoi. C'est-à-dire à 8h du matin, se retrouver dans un bar, en fait, de TGV où les gens, en fait, sont à moitié dans le coma. Bon, faut y aller, faut payer un peu de sa personne, en fait. Hein. Voilà, donc bon, c'est pas mal. Ce qui est vraiment super, en fait, sur cette formule, enfin, c'est ID Night. En fait, ID Night, donc c'est des trains qui font, parce que les lignes que j'ai faites, c'était Paris, que je dis pas de bêtises, Paris Hendaye. Donc j'en ai fait 6 ou 7. Donc là, c'est des trains qui partent à 23h, qui arrivent à 6h du matin. On est en plein cœur de cible, c'est-à-dire on a des jeunes de 15 à 28 ans. Ils affectent un wagon complet pour les jeux de société, donc il s'appelle, je crois, ID Lounge. Et là, c'est terrible, quoi. Je veux dire, on fait jouer à contrario à 100 personnes en même temps, etc. Il y a une population qui est super réceptive. Voilà, c'est vraiment très très chouette comme animation. Donc, on continue avec eux de manière plus épisodique parce qu'on est une petite structure et puis parce que c'est très crevant, en fait. Hein, donc c'est ce que j'appelle un échange de visibilité. C'est-à-dire, on leur amène une belle animation clé en main, et eux, voilà, nous mettent sur leur site internet, etc. Voilà. Mais je suis pas le seul à le faire, hein, donc Asmodée fait aussi. J'ai vu qu'il y avait le jeu sur les maths, là, qui s'appelle Folix aussi, qui fait cette animation. Donc si les gens le font, c'est que je pense qu'ils y trouvent leur compte. C'est très difficile d'évaluer, en fait, concrètement ce que ça rapporte, on n'a pas vraiment d'idée, en fait, hein, mais je sais que c'est pas mauvais, en tout cas.
Oui, effectivement, mais c'est justement ce cycle vertueux dont je parlais a un effet un peu, allez, je vais pas dire négatif, mais qui permet de ne plus mesurer vraiment concrètement qu'est-ce qui se passe, j'ai l'impression, parce que bon, il y a internet d'un côté, il y a de la promotion, il y a du podcasting, il y a des vidéos sur le net, etc. Et je crois que le concept internet, par exemple, de se dire ben je fais de la promotion sur internet et j'aimerais bien voir combien me rapporte le canal internet, ou j'aimerais bien savoir combien me rapporte le canal TGV, par exemple, ben on est de moins en moins capable de mesurer ça, j'ai l'impression.
Bien sûr.
Ouais. Donc mais on sent que le public est là, finalement, c'est le public qui...
Mais moi je crois que c'est ce qu'il faut faire, en fait, pour un jeu, c'est jouer les effets cumulatifs de différents réseaux. C'est internet, c'est des animations dans le PGV, c'est des animations d'entreprise, c'est des petits festivals, etc. J'ai beaucoup payé de ma personne là-dessus, et voilà, je pense que si ça fonctionne, c'est parce que voilà, on a réussi à augmenter, en fait, notre visibilité globale, en fait. Et puis bon, pour les jeux de poche, c'est un peu différent, parce que les jeux de poche, je crois qu'on a réussi à créer quelque chose d'un peu addictif. On met une mini-brochure dans les jeux de poche, quand généralement les gens trouvent nos jeux bien, bah, et que c'est pas trop cher, ils vont éventuellement en racheter un autre, en fait. Hein, donc c'est... Voilà, on a une stratégie de cannibalisation, hein, sur les jeux de poche. Hein, c'est vraiment un produit qui marche, on chasse un autre, on a une gamme qui est très importante, qui s'auto-concurrence. C'est un choix délibéré, parce que je trouve que le plaisir est dans l'édition, pas dans la commercialisation. Enfin, moi, je sais pas faire, donc je suis un distributeur qui fait ça très bien. Voilà, et quand on signe un jeu, on a toujours l'impression, en fait, que c'est le meilleur qu'on ait jamais fait, en fait. En tout cas, si j'en étais pas convaincu, j'arrêterais.
Voilà. Quand tu dis de payer sa personne, j'ai envie de conclure ce podcast en te demandant, en te posant une seule question, est-ce que tu dors de temps en temps?
Oui, bien sûr.
Parce que ça a l'air assez, tu as l'air de faire des journées assez impressionnantes, effectivement.
Moi, ça s'aggrave comme boulot, hein. Faut pas exagérer non plus. Ouais,
d'accord. Voilà. Bon, bah écoute, merci beaucoup Mathieu.
Merci.
On en sait un peu plus sur toi et on comprend bien le travail que tu fais et c'est toujours un plaisir.
Merci.
À très bientôt
et
voilà, bon jeu.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.